Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Nous sommes le jeudi 14 mars, il est 15h44 et nous sommes au troisième jour du salon MIPIM. Re-bienvenue ou bienvenue sur les ondes de Radio Immo si vous arrivez.
Re-bienvenue.
Re-bienvenue si des gens sont venus, repartis. Peut-être qu'il y a des sujets qui les intéressent plus que d'autres.
Je suis venu, je suis re-bienvenu.
Voilà. En tout cas, je reviens toujours sur Radio Immo.
Je taquine. Hein. Oui, je reviens-du.
C'est parce que j'ai la main, donc Sylvain essaye de me déstabiliser. Voilà. En tout cas, Sylvain, merci beaucoup de faire cette émission avec moi.
Mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous ?
Non, bah, c'est très gentil. On a le plaisir de recevoir... On a discuté avec elle de ces thèmes pour préparer cette émission et je pense qu'elle va être très intéressante. C'est Virginie Allons-y, qui est directrice prospective chez Bouygues Construction. C'est bien ça ?
Exactement. Bonjour Grégoire. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Merci beaucoup de répondre à nos questions. On va vous cuisiner, mais toujours dans beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de bienveillance, Virginie. On va parler de la ville. La ville telle qu'elle est aujourd'hui et la ville telle qu'elle sera demain grâce à ce qu'elle est aujourd'hui.
D'accord.
Wow.
Ok. C'est pas mal. C'est philosophique.
Alors là, t'as mis le niveau très très haut.
On commence bien.
Grégoire Daricot fait de la philosophie. Ça, c'est extraordinaire. Non, mais en fait, tu as raison. Je voudrais compléter la question. On vient de. Alors, c'est une ironie de l'histoire. Hein. On découvre finalement que la ville, elle est porteuse. De projets de vie, de définitions sociales, de parfois de drames sociaux aussi. Et on voit bien d'ailleurs qu'on peut relier la ville dans sa forme un peu au mode de gouvernance des pays. Très joli article d'ailleurs que j'avais lu sur l'urbanisme de l'ère soviétique, l'urbanisme du Troisième Reich par exemple, effectivement, où on voit bien cette architecture massive, dominante. Et on voit, lorsqu'on est plutôt dans le lien social, une architecture beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisée, dans laquelle effectivement on essaye de faire souche, de faire société. Et c'est vrai que les acteurs de l'immobilier sont quand même à la clé finalement de ces morceaux de vie, de ces morceaux de ville, plus exactement. Le fait qu'on en parle aujourd'hui, justement, de ces soucis-là, de sobriété, de travailler en économie circulaire, c'est-à-dire de faire travailler son prochain, là, celui qui est à côté, pour réduire les nuisances, de partager. Est-ce que c'est des notions, finalement, qui sont nouvelles, ou finalement on renoue à un système plutôt qui s'appellerait la place du village de l'époque? Et on se redécouvre peut-être des vertus communautaires qui faisaient le ciment des sociétés anciennes dont on se souvient parfois.
Alors il y a plusieurs aspects dans ce que vous dites, Sylvain. C'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a ce sujet autour du recyclage urbain, comme l'évoquait Grégoire, mais il y a aussi, avec le sujet de la place du village, comment on va retisser aussi du lien social entre les habitants. Peut-être déjà juste pour commencer sur cette partie du recyclage urbain. Alors le sujet par rapport à la ville de demain, c'est que la ville de demain, on a 80% de la ville d'aujourd'hui qui existe déjà et sur laquelle il faut justement capitaliser.
Donc demain, c'est aujourd'hui. Quoi.
Donc voilà. Donc en fait, la ville de demain, elle existe déjà à 80%.
Et c'est mieux utiliser ce qu'on a aujourd'hui.
Voilà. Et justement, nos bâtis, il faut savoir qu'un immeuble de bureau est utilisé, le taux d'utilisation en moyenne est d'environ 30%. Un établissement scolaire, le taux d'utilisation est en moyenne de 20%. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'est pas utilisé ni le soir, ni le week-end, ni pendant les congés scolaires. Donc, on a énormément de lieux comme ça. On a beaucoup de logements aussi vacants. On a des lieux oubliés de la ville, sous-utilisés. Ça peut être des parkings, ça peut être des dents creuses. Enfin, bon. En tout cas, on a finalement un gâchis énorme, énorme de mètres carrés. Et aujourd'hui, on peut déjà commencer par capitaliser finalement sur ce bâti existant pour hybrider les usages et intensifier les usages. Et pour ça, on peut apporter une approche spatio-temporelle qu'on appelle la chronotopie, où l'idée, c'est vraiment d'utiliser un même mètre carré avec un double, voire un triple usage, et donc en alternant soit des profils d'utilisateurs, soit des profils d'usagers.
Et il y a presque des tabous qu'il va falloir faire tomber. Par exemple, les écoles. Si on nous dit demain que l'école de nos enfants, elle n'est utilisée qu'à 20% et qu'elle doit être utilisée autrement quand il n'y a pas nos enfants. Moi, je suis papa de deux enfants. Enfin, je me dis que ça me frappe un peu.
Mais ça serait quoi, par exemple ?
Ben les tabous, oui, effectivement. Là, du coup, il y a des freins culturels, il y a des freins d'acceptabilité. Et ça, c'est plutôt, effectivement, au niveau humain. Mais après, il y a d'autres freins, comme des sujets de sécurité, d'accessibilité. Mmh. Qu'est-ce que ça serait ? Alors, ça se fait. Aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Mais on peut ouvrir, justement, des espaces dans les écoles pour des associations, par exemple. Le soir, le week-end ou pendant aussi les congés scolaires. Après, ça peut être simplement avec le sujet des cours d'école Oasis. C'est aussi ouvrir des écoles, des cours d'école. Alors déjà, les débitumer, remettre de la végétation. Enfin, en tout cas, que ce soit des îlots de fraîcheur qui peuvent être ouverts aux habitants du quartier ou en tout cas à tous, en particulier en période de canicule. Donc en tout cas, voilà, comment sur ces espaces on va pouvoir davantage capitaliser. On a un exemple, par exemple, notre filiale Link City a noué un partenariat avec Garage. Garage à Lille, c'est donc d'où son nom, un ancien garage qui a été reconverti, où on va retrouver à la fois des espaces de bureaux avec un espace de coworking, un restaurant, un magasin et un Fab Lab. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fonction de l'heure de la journée ou du jour de la semaine, c'est comme une pièce de théâtre, en fait, les espaces bougent. Donc on va avoir, par exemple, un espace de coworking l'après-midi et le soir, c'est la partie restaurant qui va prendre tout l'espace. À l'inverse, il y a une petite zone de magasin dans la semaine et le week-end, c'est le magasin qui va s'étendre sur toute la surface. Donc c'est comment on peut justement intensifier ces usages. Et ça a des bénéfices environnementaux, évidemment, puisque justement on limite l'artificialisation des sols, mais ça a aussi des bénéfices sociétaux. C'est vrai qu'un immeuble de bureaux qui n'est pas animé, il n'y a pas de vie le soir ni le week-end dans le quartier, là, en fait, en mixant avec d'autres usages, on va retrouver aussi une vie de quartier. Et le troisième bénéfice sont des bénéfices économiques, puisque du coup, on va aussi générer des recettes en intensifiant ces usages de mètres carrés.
J'ai une idée. Les écoles, le soir, on va les équiper de lits de couchage, pour loger les 3000 enfants tous les soirs qui sont à la rue, sans papier, en totale déshérence, au nez, à la barbe de tout le monde. Ce ne serait pas une mauvaise idée, ça.
Ça pourrait se faire dans un gymnase.
3000 enfants.
Et ça se fait déjà dans un gymnase.
Voilà, cette année, ont été recensés, ce qui est absolument incroyable. Ça, vous le saviez déjà, vous l'aviez déjà lu. On pourrait aussi, également, par exemple, permettre à des personnes âgées de recréer du lien à travers ce mot de l'école. Par exemple, pour revenir à l'époque, une époque que moi j'ai connue, mais bon, à l'âge que j'ai, je suis déjà, à mon avis, cuit pour la génération d'aujourd'hui, mais c'était des cercles de lecture. On faisait des cercles de lecture pour apprendre cette chose, et je me rappellerai toujours, parce que moi j'ai eu la chance ou la malchance de passer par la DAS, c'était des personnes qui venaient, sur leur temps libre, nous faire des cours de lecture avec des livres. Et ce qui nous a sauvé la vie, c'est les livres. Et je trouve que dans la ville, il y a une destination qui est très intéressante. Et je pense que l'immobilier, je serais ravi d'apprendre que vous avez embauché un anthropologue. Moi, j'aurais fait plus. J'aurais embauché un anthropologue et un philosophe de l'urbain.
Par étapes.
Voilà, pour justement essayer de réfléchir un petit peu à tout cela. Justement, si on fait société demain... Et mixité, vous avez évoqué le terme de sobriété, vous avez évoqué aussi le terme de gâchis en mètre carré. Est-ce que on peut aujourd'hui réellement, lorsqu'on est un promoteur, lorsqu'on est une société privée, quand même soumis à la règle du marché, soumis à la règle de la rémunération des capitaux qu'on a investis, parce que c'est une réalité, et qu'il ne peut pas y avoir de schéma, même philanthrope, sans modèle économique pérenne, donc il n'y a pas de souci là-dessus, tout en essayant d'intégrer toutes les populations. Est-ce qu'on ne rêve pas un peu quand on dit qu'on peut arriver à une forme de vraie mixité, d'usage, de fonctionnel, social, dans une ville qui se veut apaisée et qui s'étend de plus en plus ? Puisque aujourd'hui, on a à peu près, je crois, 50% de la population mondiale qui vit en ville. Ils seront 80% en 2050. Est-ce que ce sont des thématiques qui, à votre avis, peuvent être prises en compte lorsqu'on est une entreprise privée, cotée, aujourd'hui, comme Bouygues Construction, par exemple.
Oui, bien sûr, ce sont des thématiques qui sont prises en compte, d'où justement ce sujet, par exemple, d'hybrider et d'intensifier les usages. Mais en dehors de ça, le sujet, vous l'avez dit, c'est le sujet du modèle économique. Donc après, c'est comment on fait différemment.
Il ne peut pas y avoir pérennité sans modèle.
Non, mais voilà, comment on fait différemment. Aujourd'hui, de toute façon, dans une société sous tension, fragmentée, où on a une urgence écologique, on a des sujets géopolitiques. Enfin, il y a effectivement énormément d'impact sur tous ces sujets d'immobilier et de construction. Et donc, il faut composer avec tous ces éléments. Donc aujourd'hui, enfin voilà, en tout cas, il y a des réflexions sur tous ces sujets-là et c'est pris en compte. Vous parliez du lien social tout à l'heure. C'est extrêmement important justement en termes de résilience aujourd'hui d'imaginer des projets immobiliers ou des projets urbains où justement on va essayer de favoriser ce lien social, plus de solidarité entre les habitants, parce que quand ils vont devoir faire face aussi justement à des chocs, à des aléas climatiques, que ce soit des inondations, des tempêtes ou par temps de canicule, par moment de canicule, il faut qu'il y ait cette solidarité
Comme c'est le cas en ce moment, est-ce qu'aujourd'hui on est dans une époque dans laquelle on est prêt à partager, selon vous?
Il y a un lien qui doit être recréé pour partager, en tout cas, mais c'est possible. Quand ce lien est créé, on voit qu'il y a du partage. Vous nous aviez dit que vous aviez publié une étude à ce sujet.
Oui, tout à fait. Alors, par exemple, on a mené, entre autres, une enquête auprès de 4000 Français sur le sujet qualité de vie et transition écologique, où on aborde notamment tous ces sujets-là. Et on voit bien qu'il y a une forme d'individualisation de la société, mais pas d'individualisme. En fait, on veut se déconnecter des grandes institutions. On veut être plutôt dans des collectifs. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une envie forte de tous les Français. Je crois que j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est entre 70 et 75% de Français qui veulent justement recréer ce lien social.
Ce lien social, effectivement, on a cette impression. Est-ce que justement, quand on prend l'habitat ou l'art d'habiter, finalement, on met le point aussi sur cet urbanisme qui s'est accumulé, parfois triomphant, qui a créé des silos, qui a créé des communautés. Et on a parfois l'impression, effectivement. Alors, je sais que c'est un pensif que de le dire, mais voilà, si je dis ouest parisien, on résonne plutôt quartier chic. Si on dit est parisien, on dit plutôt zone plus pauvre. Est-ce qu'on peut arriver à un moment donné, finalement, à ce que dans la même rue, dans le même quartier, on puisse avoir une vraie mixité sociale? Est-ce que ça vous paraît réaliste ou pas? Ou est-ce qu'il ne faut pas finalement accepter l'idée que, par définition, par cadre social ou classe sociale, bah, les personnes, par affinité, vivent ensemble?
Non, moi ça me paraît réaliste qu'on puisse avoir justement une mixité. Après, voilà, le sujet du logement, c'est que pendant des années, il a été effectivement pensé sans forcément s'adapter tout à fait aux attentes, aux usages. Là, on a oublié la valeur d'usage pendant très longtemps. Effectivement. Et donc, en tout cas, la crise sanitaire, notamment, mais c'était déjà, il y avait une tendance de fond, mais à accentuer ce sujet-là. Et donc, aujourd'hui, on va beaucoup plus s'intéresser justement à cette valeur d'usage, à recréer. Vous avez beaucoup de sans que ce soit du co-living. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de projets immobiliers où justement, on va quand même penser à recréer des espaces communs, que ce soit à l'échelle de jardins partagés, d'une terrasse commune, d'une salle commune, pour justement avoir aussi ces espaces de mixité.
L'habitat intergénérationnel en fait partie.
Voilà, et il y a aussi tous ces sujets d'habitat intergénérationnel qui est extrêmement important. On a aussi du co-living intergénérationnel. Il y a de plus en plus d'échanges aussi au niveau de ces sujets-là, au niveau intergénérationnel. Et puis après, on a aussi toute une réflexion autour justement du sujet de penser la ville à hauteur d'enfant, qui est vraiment justement penser la ville pour tous. C'est une ville plus apaisée, une ville où on va retrouver justement de la végétalisation, moins de place par rapport à la voiture, et donc des espaces, vous parliez de la place du village, ben voilà, des espaces où on va pouvoir davantage recréer du lien. Est-ce que vous voyez encore beaucoup d'enfants aujourd'hui aller à l'école à pied ou jouer dans la rue ?
Vu le contexte actuel, non, c'est de moins en moins le cas, sauf dans des petites villes comme Cannes ou ailleurs, mais je suis d'accord avec vous, je pense que c'est intéressant de renouer avec cette idée. Ce qui est intéressant, c'est que C'est comme ça que les sociétés fonctionnaient. Et que finalement, on revient. Non, mais ça.
Ben bah voilà, on revient.
C'est une ironie de l'histoire. On revient à des choses fondamentales.
Exactement.
L'agora de la place du village.
On revient à des choses fondamentales avec du bon sens. Mmh. Et pour revenir à ce sujet du lien social, voilà, l'être humain finalement est fondamentalement social. Il ne peut pas vivre finalement sans les autres. Il a besoin des autres aussi pour se développer. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été pris très au sérieux, notamment d'ailleurs par l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé, puisqu'elle vient de créer, fin 2023, une commission justement autour de ce lien social, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont isolées. On a une personne sur 10 dans le monde qui est en situation d'isolement social. Et donc, ils estiment que c'est aussi une cause justement qui impacte la santé physique et mentale. Donc voilà, il y a tout un travail.
La ville de demain, elle est faite en fonction du lien social et en fonction des usages, si je vous écoute bien.
Exactement.
Et d'une gouvernance, on va dire, apaisée.
Et partagée, avec aussi de plus en plus d'implication des citoyens.
Démocratique. On commence à s'en éloigner du modèle, hein. Non, mais j'ai juste lu... vous savez, les informations, on les lit le matin, puis on est déprimé pour la journée. Là, je lisais ce matin, repli identitaire dans les principaux pays d'Europe, avec la Hongrie, une partie de l'Espagne. On a maintenant même l'Autriche. On a les pays slaves, c'est incroyable, mais c'est vrai qu'ils basculent à l'extrême droite. On a élu des partis d'extrême droite, il y a des coalitions qui se forment. Il y a des idées plutôt nauséabondes qui ressortent un peu partout. Et c'est vrai qu'en même temps, il y a ces courants que vous incarnez, vous, Virginie et d'autres, et je m'inscris complètement et je vote pour vous demain pour essayer de dire, voilà, bah, la ville, elle peut être autre chose, elle peut être belle. Et elle peut être, vous savez, dans la mouture, c'est intéressant ce que vous dites, parce que on est vraiment dans la mouture d'un livre qui a été publié dans les années 1500, qui était l'ancien chancelier, qui est chancelier en Angleterre, qui était le mentor d'Henri VIII, vous savez, c'est Thomas More, qui avait écrit un très joli livre, un très beau livre qu'il faut relire dans son contexte, qui s'appelait Utopia. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est très intéressant parce que je résume l'idée. Il n'y a pas d'idée sous-jacente, mais c'est vivons un peu en mode kibbutz dans une ville, c'est-à-dire dans un mode de partage avec des espaces communs, avec une unité intergénérationnelle. Le fait de partager les moyens de transport aussi, c'est quelque chose. Et donc, c'est très lié à une façon de diriger un pays, une politique. Donc, je pense que finalement, vous incarnez, vous, Virginie et Bouygues Construction, parce que c'est vrai que chez Bouygues, vous avez cet ADN-là, que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie toujours autant, cet ADN de frugalité dans la recherche. Vous êtes une très, très grosse entreprise. Et pourtant, il y a encore cet ADN de recherche, de développement. Vous n'êtes pas obligés, ils ne sont pas obligés, tous ces promoteurs, d'investir sur des directions de prospective, de réflexion. Et pourtant, ils le font parce qu'ils pensent que c'est important, parce qu'au-delà de la notion économique, ils ont une fonction sociale, sociétale très forte. Moi, je salue cette action. Et je suis très heureux que des entreprises comme la vôtre puissent s'y pencher. Il faut le dire, ça, parce qu'on ne le dit pas assez.
C'est important de comprendre.
C'est important de comprendre et c'est important. L'entreprise a une responsabilité face à ces enjeux aussi de société et par rapport à tous ces aléas auxquels on doit faire face aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, il y a un rôle de l'entreprise et qu'il y a un rôle sociétal.
Qui ne doit pas être occulté.
Exactement, qui ne doit pas être occulté. Et donc, c'est important qu'il y ait tous ces travaux justement de recherche qui ensuite infusent dans les projets pour imaginer...
Moi, j'ai une proposition à faire. Oui. De mettre Bouygues Construction reconnu d'intérêt général. Ce serait un beau dossier à porter, vous êtes d'accord? Voilà, un beau dossier à porter.
Mais tous nos lieux de vie, finalement, sont d'intérêt général. Que ce soit, voilà, logements, ouais. Tout ce qui est lié à l'éducation, à la santé, les lieux culturels, on pourrait...
C'est rassurant aussi de voir que toutes ces entreprises de l'immobilier, elles réfléchissent à tout ça, elles réfléchissent aux usages, elles réfléchissent à la compréhension de la ville, et de voir qu'en fait, on a...
Et pas tout seul, toujours avec énormément de parties prenantes.
Voilà, exactement.
Vous parliez de philosophes tout à l'heure, on n'en a pas encore embauché chez Bouygues Construction. Mais justement, on travaille avec des philosophes, des anthropologues, des chercheurs et évidemment des bailleurs sociaux, des collectivités.
Et des historiens, il faut des historiens.
Et surtout aussi cette coopération publique-privée qui aujourd'hui elle est extrêmement importante et on ne pourra jamais y aller tout seul. Il faut qu'on y aille tous ensemble. Et donc, c'est important d'avoir cette coopération entre le monde académique, le public et le privé.
C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau, Virginie Allons-y. Revenez souvent.
Merci à vous.
Revenez souvent.
Au plaisir.
Ça nous permet de réfléchir, de débrancher un peu de réfléchir, puisqu'il ne peut pas y avoir de pratique sans théorie. Et pour avoir une bonne théorie, il faut avoir une bonne pensée. Vous savez, il y a un très joli livre aussi également, bah, décidément, on est dans les références littéraires, qui s'appelle Le Tir Instruit. Vous l'avez lu, de Michel Serres. Il y a une trentaine d'années,
j'en ai lu beaucoup de Michel Serres, mais celui-là, j'avoue, je ne l'ai pas lu.
Le tir instruit, en fait, c'est le livre qui l'a rendu célèbre, en fait, au notoriété, il y a plus d'une trentaine d'années. C'est un livre magnifique parce qu'il dit la chose suivante, il dit finalement, il fut des siècles où un homme pouvait posséder l'intelligence de son siècle, hein, ça a été le cas de Léonard de Vinci au XVIe siècle. Mais aujourd'hui, on vit dans un siècle de complexité. Il faut accepter, assumer la complexité. Et assumer la complexité, c'est assumer le fait qu'on doit travailler tous ensemble dans une intelligence collective. Donc il parle de ce projet. Michel Serres, il dit voilà, que le XXIe siècle, c'est l'intellectuel collectif qui dominera le monde avec une vision mathématique. Parce qu'il avait cette double fonction mathématique et philosophe, avec une émergence justement de talents qui fait qu'on fabriqua finalement des lieux où il faut bon vivre. Une ville, c'est une ville sur laquelle on se projette. Ça peut être aussi une arme par destination, une ville. Et donc, elle peut être vecteur de plein de choses. Donc, je suis ravi que vous inscriviez dans cette démarche. Voilà, c'était l'heure philosophique.
C'était une belle fin, Sylvain. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci beaucoup, Virginie. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir.
Merci à vous.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.